Voilà, alors donc, pour ceux qui sont en train de me visiter, donc c'est la première fois que je suis dans cette église, et donc c'est la première rencontre avec l'église pour peut-être envisager d'exercer le ministère dans cette église. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, c'est pendant quelques minutes peut-être de vous donner rapidement mon témoignage, que vous puissiez savoir un peu qui je suis, et puis... Après, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on se... on aura le temps de se connaître, je vais dire. Et on aura le temps de repas après, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir des éclaircissements ou quoi que ce soit. Alors, je vais dire comment s'est fait mon cheminement avec Dieu. Alors, je vais dire que les choses ont commencé à l'âge de 4 ans. En fait, mon papa est décédé donc, lorsque j'avais 4 ans. Donc ma famille ne fréquentait pas l'église quand je suis né, on va dire. Et lorsque mon père est décédé, ma mère a décidé de revenir dans le chemin de la foi. Et donc elle s'est rapprochée de l'enseignement catholique qu'elle a reçu en tant que jeune fille. Et forcément en tant qu'enfant on suit. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir un enseignement religieux par le catéchisme. Et ma mère avait développé une certaine piété, donc on priait le soir. Quand on ne pouvait pas aller à l'église le dimanche matin, et on y allait le samedi soir. Donc on avait une certaine forme de piété. Jusqu'à à peu près l'âge de 10 ans, un matin, ma mère ne s'est pas réveillée. Alors, ce n'était pas très grave fondamentalement, mais il y a eu quand même besoin que le samedi vienne. C'était juste une crise d'hypoglycémie. Le temps de remettre en fonction comme il faut le corps. Et une voisine a vu ça, et elle connaissait la situation de ma maman qui avait ses trois enfants seuls, et elle s'est dit, il faut que je lui parle du Seigneur, et c'est ce qu'elle a fait quelques jours, quelques semaines après. Et ma mère donc a décidé de la suivre dans une église évangélique, et donc elle est venue pour la première fois seule dans une réunion de prière un mercredi soir. Et ma mère a été touchée par le message de l'Évangile. Et donc, quelques jours après, elle nous a fait venir, moi, ma soeur, mon frère. Et quand ma mère m'a dit qu'on allait aller à l'église, quand on est enfant, même si on y va régulièrement, quand on lui dit qu'il faut encore en plus y aller en semaine, on n'est pas forcément très, très enthousiaste. Et puis, quand j'y suis allé, je me suis dit, pareil, ça va être bien long et monotone. Et ce qui m'a tout de suite touché, je vais dire, c'était les chants qui étaient quand même un peu plus dynamiques. Et puis surtout, il y avait plein d'enfants qui couraient partout. J'ai grandi dans une église où il y avait à peu près 500 personnes le dimanche matin. Donc vous imaginez, il y avait plein de gamins qui couraient partout. Enfin, c'est génial. Quand on est enfant, c'est vraiment très, très génial. Et on a fait quelques expériences, même plusieurs expériences, suite à notre venue. Alors je vais dire, ma première expérience, c'est pas une expérience qui m'a forcément marqué, même si c'était moi qui étais un peu au centre de cette expérience. Très rapidement, en fait, après être venu à l'église, on a découvert que j'avais une tache au poumon. Et donc forcément, on m'a hospitalisé avec plein d'examens et tout ça. Et le médecin avait ce gros point d'interrogation en se disant, est-ce que c'est cancéreux ou pas? Et on a fait des analyses, quand on a découvert cette tâche, on a demandé à ce que le pasteur prie pour moi. Et puis, au bout d'un moment, plus de traces, le médecin était beaucoup plus serein. Mais je veux dire, c'était quand même une première expérience. Alors je vous dis, ça ne m'a pas forcément touché, parce que quand on a 10 ans, on ne se rend pas compte de tous les enjeux qui sont derrière. Par contre, je pense que pour ma mère, c'était quand même une expérience qui a beaucoup marqué sa foi. Alors, une expérience qui m'a un peu plus touché en tant qu'enfant, j'avais fait une fois une insolation. Et c'était vraiment quelque chose d'assez important. Je ne supportais plus la lumière, c'était vraiment quelque chose d'affreux. J'ai dit à ma mère, écoute, tu téléphones au pasteur, on était dans la soirée. Et au moment où le pasteur a prié pour moi, je me suis senti beaucoup mieux. Le lendemain, j'étais reparti avec toute l'énergie débordante que je pouvais avoir. J'ai eu cette grande chance de connaître l'Église, on va dire, enfant. Et à l'âge de 13 ans, l'adolescence faisant son œuvre, j'ai eu une crise d'adolescence qui était particulièrement mouvementée. J'avais pas de papa à la maison, donc ça fait que je n'avais pas forcément de cadre. Et puis à un moment, à 13 ans, j'ai dit à ma mère, écoute, l'église c'est cool, mais le dimanche j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de profiter un petit peu. Et j'ai quitté l'église en me disant, l'église c'est cool, Mais je reviendrai dans quelques années. Pour l'instant, je suis jeune, je vais profiter. Et c'est assez épatant ce qui s'est passé, c'est que plus je m'éloignais de l'église, et plus j'étais convaincu qu'il fallait que jamais je remette les pieds dans une église. Et je faisais partie d'une petite bande dans un quartier, on faisait les 100 coups, et on n'avait pas besoin de me pousser en général pour que je sois assez créatif pour trouver des bêtises à faire. Et il n'y avait vraiment rien qui me faisait peur. Alors je me souviens, quand on faisait des bêtises, des fois, mes potes me disaient « Ouais, moi, je vais peut-être pas faire ça, parce que si mon père l'apprend, je vais passer un mauvais quart d'heure. » Et moi, le truc, c'est que j'avais pas de papa à la maison, donc voilà, nos limites. Hormis deux choses. Alors j'ai le vertige, alors Gérard a eu l'occasion de s'en rendre compte hier.
Et j'ai essayé de le pousser dans le puits de l'enfer, mais bon, j'ai dit, vous allez peut-être mieux le garder encore pour aujourd'hui. Quoi.
Et donc ça fait que quand ils allaient crapahuter, faire des bêtises sur les toits, bon, j'étais pas forcément le plus enthousiaste. Et la deuxième chose qui m'a freiné, c'était la crainte de l'éternité. En fait, si je venais à mourir, je ne savais pas où j'allais aller. Et je trouvais la vie terriblement stupide. Si tout s'arrêtait simplement ici-bas et que le but c'était juste de construire une maison, de se marier, avoir des enfants et d'avoir un moment où tout se termine simplement comme ça. Et plus le temps passait et plus ça devenait, je vais même dire, maladif. Parce que tous les soirs, je me couchais en me disant « Mais si tu viens mourir, où est-ce que tu vas ?» Et alors devant mes potes, mes amis, tout le temps me regardaient en disant « Tiens, c'est génial, Fabien, c'est vraiment un bout en train, il amuse tout le monde. » Mais ils ne savaient pas du tout ce que je vivais le soir, c'était vraiment angoissant. Et je me suis dit à un moment, ce qui répond à cette question, c'est la religion. Donc, il faut quand même creuser un petit peu plus cette question. Alors j'avais un ami qui était musulman, mais enfin je veux dire, c'était plus de tradition que pratiquant. Je l'avais un petit peu questionné, mais ça m'avait pas atteint, parce que je trouvais que le témoignage n'était pas forcément en adéquation avec ce qu'il disait. Et alors ce que j'ai fait, j'ai repris ma Bible. En fait, quand je suis venu à l'église, donc mon anniversaire de 10 ans, ma mère m'a fait le plus beau cadeau que j'ai eu, c'était la Bible. Je ne pensais pas que c'était le plus beau cadeau quand je l'ai eu à 10 ans, mais j'avais 16 ans, et je me suis dit, tu vas rouvrir la Bible. Et alors quand j'étais enfant, j'ouvrais la Bible, mais je la lisais parce qu'on me disait de la lire, mais je trouvais ça vraiment rébarbatif. Et puis on m'avait dit, alors bon, j'étais dans la logique de l'ado rebelle. On m'a dit, l'idéal c'est de commencer par le Nouveau Testament. Et étant donné que j'étais bien rebelle, je me suis dit, ce que je vais commencer par l'Ancien Testament. Et puis, alors c'est vraiment marrant, je sais pas, voilà. Et j'ai commencé donc à lire le livre de la Genèse, et en fait j'ai trouvé ça super cool. J'ai lu la Genèse. J'ai lu l'Exode, c'était vraiment génial, et puis je suis tombé sur les Lévitiques, et puis là je me suis dit, écoute, on va peut-être commencer le Nouveau Testament. Et puis, dans le Nouveau Testament, alors j'ai découvert le personnage de Jésus, alors c'est très drôle, en fait, on lit toujours Jésus avec son expérience, et ce qui m'a fait frapper chez Jésus, c'est que, pour moi, Jésus c'était un rebelle, un peu la façon dont il parlait aux pharisiens, la façon dont il se met en opposition, je me disais, mais il est vraiment génial cet homme-là. Et puis, je me suis dit, maintenant, il faut aller plus loin, il faut rejoindre une église. Et donc, je suis retourné donc, à l'église que j'ai connue. On a prié pour moi, donc je fumais. Et puis, j'ai arrêté de fumer, comme ça. Mais ça ne m'a pas marqué. Je veux dire, c'est peut-être la volonté, je ne sais pas. Et au bout de 3 semaines que je venais à l'église, à un moment, je vais voir le pasteur. Et alors, c'était un papy avec un tempérament, c'était un ancien paysan. Mais vraiment remarquable, avec une foi du tonnerre. Et alors ça me touche à chaque fois que je parle de ça, un papy de 75 ans, et puis simplement il croyait que quand on prie, il lui répond. Ça paraît bizarre, mais il avait vraiment cette foi spontanée, alors je lui dis, je veux faire une expérience avec Dieu, je veux rencontrer Dieu. Et alors il s'est mis à genoux à côté de moi, 75 ans, c'est remarquable, et puis il s'est mis à prier. Et à ce moment-là, je me suis mis à tomber en larmes, et j'ai été comblé par l'amour de Dieu. C'était vraiment la première fois que je sentais réellement un amour fort, puissant, et ça descendait vraiment puissamment dans mon cœur. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré, je pense que ça n'a pas dû durer plus de 5 ou 10 minutes, mais j'avais vraiment pas de notion, je vais dire, temporelle à ce moment-là. C'était le 29 novembre 1998, c'était entre 13h et 14h, donc c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et puis, suite à ce temps de prière, le pasteur m'a dit, il m'a fait avancer tout devant, Il m'a dit, bah tiens, raconte ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas quoi dire, j'ai pleuré. Bon, j'avais 16 ans, hein, je ne savais pas trop quoi dire. Et puis il me dit, mais pourquoi? Et je lui ai dit, ma vie a changé. Et j'avais vécu que ça, mais je savais que les choses allaient prendre une tournure différente. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors je vais vous dire, donc, depuis l'âge de 16 ans maintenant, je marche pour le Seigneur. Je savais qu'un jour le Seigneur m'appellera à son service. Et je suis bien content que ça ne s'est pas fait, je veux dire, dans les premières années de conversion. Je pense que c'est bon de prendre le temps d'évoluer et de connaître mieux le Seigneur avant de se lancer, on va dire, dans l'appel que Dieu nous adresse. Je vais juste vous partager une expérience qui m'a beaucoup marqué, et puis après on ira sur le texte de l'Écriture. Une fois, ça faisait quelques années que j'étais converti. En fait, quand je me suis converti, donc je ne travaillais pas, je n'avais pas envie de travailler, mais quand je me suis converti, j'ai compris qu'il fallait travailler, j'ai fait un BEP en logistique. Et puis, j'aurais voulu continuer les études, mais il n'y avait rien qui se faisait dans ma ville natale à cette époque-là. Et puis un soir, je sors sur un terrain de foot et j'aimais bien les prier à l'extérieur. Et je dis, Seigneur, j'aimerais vraiment reprendre les études et j'avais vraiment à cœur de prier pour ça. Je passe une heure en prière, pratiquement une heure en prière, en priant pratiquement que pour ce sujet-là. Je rentre chez moi, ça faisait pas un quart d'heure que j'avais fini de prier et je vois une lettre de ma boîte aux lettres qui dit, Monsieur Fourcas, on ouvre une section dans la filière qui nous intéresse sur Besançon, tout ça. Et là, je me dis, quoi. Les portes s'ouvrent. Je passe les examens, tout se passe merveilleusement, et donc je donne ma démission à mon patron, et puis au bout de deux semaines avant que la formation commence, eh bien on me téléphone, on me dit en fait la formation que vous vouliez faire, elle ne se fera pas, je me trouve au chômage, sans aucun droit, et puis là une grosse question, et alors qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Donc voilà les points d'interrogation qui parcourent notre chemin. Mais je me suis dit, bon, ma foi, je resterai fidèle à Dieu, hein, la question n'était pas là. Et puis, un mardi après-midi, donc j'allais à une réunion de l'église, et puis je marche dans la rue, je marchais assez rapidement, j'étais pas mal pressé. Et puis, j'ai un gars qui m'arrête dans la rue, il parlait pas un mot de français, donc d'origine brésilienne. Donc, il monte son téléphone portable, c'était marqué tout en portugais, et il y avait juste un nom de rue, je savais même pas où c'était. Et alors, j'essaie de lui parler un peu en espagnol en lui disant que j'allais à une église, et alors il me donne un carnet, il n'a rien compris, il a juste pris l'adresse de l'église, et lui, ce qu'il a compris, c'est que s'il allait à cet endroit, il allait trouver quelqu'un qui allait l'aider. Voilà. Et il vient à l'église, et la première personne sur qui il tombe, c'était une dame portugaise, donc c'était Brésil, Portugal, donc la même langue. Et il se révélait que cet homme allait se retrouver à la rue à la fin de la semaine. Et donc le pasteur vient me voir et il me dit, bah, écoute, ce jeune homme va se retrouver à la rue. Est-ce que tu veux bien le prendre chez toi à fin de semaine? Donc dans le contexte, je ne savais pas ce que j'allais avoir à manger. Je savais que j'avais un mois et demi, peut-être deux mois pour vivre et je ne savais pas après comment j'allais faire. Et je suis toujours parti du principe qu'il ne faut rien refuser à Dieu. Et je me suis dit, je vais prendre Antonio à la maison. Le lendemain, on me téléphone en me disant, écoutez, vous allez passer dans notre entreprise, on va avoir un entretien pour du travail. Le vendredi, donc, je passais l'entretien. Le samedi, Antonio arrivait à la maison. Le lundi, je partais dans mon nouveau travail en ayant signé un CDI sans avoir touché un seul carton. Et dans une boîte où je me suis vraiment amusé pendant 6 ans et demi, c'était vraiment très bien. Donc voilà, c'était vraiment pour moi vraiment une bénédiction. Mais alors, les études dans tout ça. En fait, Dieu a fait quelque chose de beaucoup plus grand que je ne pensais. Normalement, pour avoir un BTS en logistique, il aurait fallu que je travaille 4 années. Et en fait, j'ai pu poser un congé formation et faire un BTS en logistique en une seule année. Donc à la place de faire 4 années d'études, j'ai fait qu'une seule année d'études. Et bref, le Seigneur a vraiment béni les tout ça. Et par la suite, j'ai pu aussi rentrer en fac de théologie, qui était vraiment un projet pour moi, je vais dire, depuis l'âge de mes 16 ans. Enfin bref, j'ai vraiment vu le Seigneur me bénir là-dessus. C'était pour moi une expérience qui était vraiment très forte, de voir comment Dieu avait pu conduire ma vie. On aura de toute façon l'occasion de reparler de tout ça. J'aimerais maintenant qu'on puisse se recentrer sur le texte de l'Écriture. Je vous invite peut-être à prier pendant ce temps de partage autour de l'Écriture. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité, parce que tu nous enseignes à travers elle. Seigneur, on te demande vraiment de toucher notre cœur, de nous atteindre, que tu puisses nous donner de pouvoir mieux comprendre encore ce que tu veux nous dire à travers l'Écriture. Amen. Alors, j'aimerais prendre ce matin le texte que l'on trouve dans le livre de Zacharie au chapitre 4. Alors, je vais prendre un texte donc, qui, à première vue, en tout cas, est assez difficile et auquel on a un peu du mal, on va dire, à comprendre le texte quand on le lit à froid. Je vous rassure, je ne prends pas toujours des textes aussi difficiles, mais j'ai choisi ce texte parce que je crois que derrière, quand on cherche à relever un petit peu les difficultés de ce texte, il est plein d'enseignements et je crois qu'il est vraiment à propos dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, Zacharie, c'est un prophète qui se trouve juste dans la période qui suit la déportation de Babylone. Donc, je vous rappelle un petit peu le contexte. Donc, le peuple d'Israël est parti à cause de son péché 70 années dans les territoires de Babylone. Et puis, au bout de 70 ans, suivant la promesse que Dieu avait faite à travers ses prophètes, il y a un changement de politique dans le régime babylonien. Et la nouvelle politique invite chaque peuple qui était déporté à pouvoir retourner sur sa terre d'origine. Et tous ces juifs qui avaient prié pour cela depuis 70 ans, ils voient un chemin de Dieu, et donc ils reprennent les valises, et puis ils font le trajet de retour pour retourner dans le territoire de Judée, et plus spécifiquement à Jérusalem. Et ces pionniers qui rentrent pour construire ce nouvel État rentrent avec un leader spirituel donc, qui s'appelle Josué, qui est le souverain sacrificateur, et avec un leader politique qui s'appelle Zorobabel. Et aussitôt arrivés dans le territoire de Judée, eh bien, tout de suite, ils veulent offrir leur reconnaissance à Dieu, ils remettent en place l'autel, ils offrent des sacrifices, il y a une grande fête, beaucoup de joie, et ils disent, on ne peut pas s'arrêter là, maintenant il faut aller plus loin, et il faut construire le temple. Et donc, ils commencent à reconstruire les fondations du temple, il y a beaucoup de joie, mais arrive un événement qui n'était pas prévu. Les peuples qui étaient autour et qui avaient pris possession du pays s'opposent à ce projet et ils mettent en place tout un ensemble de barrières pour que le projet de la construction du temple s'arrête. Et pendant 16 années, la construction du temple et le projet du temple tombent à l'eau et alors continue à avoir des sacrifices sur cet autel, mais le projet du temple tombe aux oubliettes. Et le peuple a besoin d'être encouragé et de recevoir une prophétie pour pouvoir se remettre en mouvement pour construire ce qui sera donc le futur second temple. Et l'un des prophètes qui encourage le peuple à reconstruire ce temple, c'est Zacharie. Et c'est avec la parole que nous trouvons donc dans Zacharie au chapitre 4. Et je vais lire le texte. L'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur ? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient donc ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche ? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or d'où découle l'or ? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux oints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, que signifient ces choses ? Même quand il reçoit ces réponses de l'ange de l'Éternel, donc là, ça nous semble un petit peu obscur, et je crois que ce texte est effectivement un petit peu obscur. Je crois qu'il y a deux choses qui nous rendent ce texte un petit peu difficile à comprendre. Tout d'abord, c'est des questions d'image, parce qu'aujourd'hui, quand on veut dire quelque chose, en tout cas dans notre culture latine, eh bien, quand on voit un chien, on appelle ça un chien et on ne prend pas tout plein de tournures pour expliquer les choses. Et la deuxième chose qui nous rend ce texte un petit peu difficile, c'est qu'on est dans un contexte totalement différent, avec une culture religieuse qui a une certaine distance de celle avec laquelle nous grandissons. Mais si j'ai choisi ce texte, comme je vous disais, c'est parce que quand on gratte un petit peu par-dessus ces difficultés, eh ben, c'est un texte qui ne s'adresse pas seulement au peuple d'Israël à l'époque, mais c'est un texte qui nous concerne aujourd'hui tout particulièrement. Alors la lecture que nous avons faite, en fait, se structure en deux parties. Alors vous avez toute une partie donc, qui se trouve au début du chapitre et à la fin, qui nous parle du chandelier, de l'huile, des oliviers. Et puis vous avez une deuxième partie qui se trouve, elle, entièrement à l'intérieur du texte, qui s'adresse plus particulièrement à Zorobabel, qui lui parle d'une pierre et d'une construction qui est annoncée. En fait, le fait de mettre cette partie du texte au centre du texte, c'est en fait dans les textes hébreux anciens, lorsque l'on voulait inviter les gens à être plus attentifs à quelque chose, en fait, on mettait ces choses-là bien au centre du texte, et c'est pour ça en fait qu'il y a cette parole spécifiquement qui est adressée à Zorobabel au milieu du passage. En fait, le but de mettre ce texte bien au milieu du passage, c'est d'inviter Zorobabel à agir rapidement. Donc, l'appel que Zacharie est en train d'adresser, c'est un appel à agir, et à agir tout de suite, au moment où la prophétie est donnée. Et l'attention, donc, dans ce chapitre, est mise sur Zorobabel, qui a une responsabilité, celle de reconstruire le temple. Et même si les circonstances environnantes et l'ampleur de la tâche peuvent lui sembler une montagne, et c'est bien de parler d'une montagne dans ce texte, la situation est exactement la même qu'il y a 16 ans en arrière. Il y a toujours autant d'ennemis qui l'environnent, et puis le temple est toujours un monticule de gravats qui a été brûlé à peu près 80 ans auparavant. Et Zorobabel donc, se retrouve face à une tâche qui est particulièrement lourde et particulièrement compliquée. Est-ce que Dieu demande à Zorobabel, c'est de ne pas avoir peur face à l'ampleur de la tâche et de faire confiance à la parole du prophète. Alors on peut un petit peu imaginer ce qui se passe dans le cœur de Zorobabel lorsqu'il entend ce message. Il y a plein de questions qui doivent lui trotter à travers la tête. Il y a 16 ans, il y avait une motivation qui était à son comble. Les choses ne sont pas faites. Pourquoi les choses se feraient à ce moment-là? Pourquoi Dieu a attendu autant de temps? Pourquoi agir maintenant et pourquoi ne pas agir plus tard? Enfin, vous savez, toutes les questions qu'on peut avoir lorsqu'à un moment on reçoit une conviction que Dieu nous demande d'agir, et puis on se dit, mais pourtant, j'ai déjà essayé de faire des tas de choses auparavant, et les choses ne sont pas conclues. Et le texte de l'Écriture, alors, donne une réponse, mais qui n'est pas forcément une réponse mathématique. La seule réponse que reçoit Zorobabel face à toutes ces questions, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que ce n'est pas en s'agitant de toute façon, de toutes les façons possibles et imaginables qu'on a pu construire ce temple pendant 16 années, mais c'est au moment où la parole de l'Éternel lui est adressée qu'il doit se mettre en mouvement. Et certaines fois dans notre vie, on a certains cheminements, comme ça on ne comprend pas pourquoi Dieu nous fait passer par un temps de désert, par un temps où on ne voit pas forcément ce que Dieu attend de nous. Et je crois que c'est tout à fait légitime de se poser tout un ensemble de questions lorsqu'on ne comprend pas forcément ce que Dieu fait, là où Dieu est. Mais je crois qu'il nous faut accepter qu'à un moment, c'est Dieu le patron. Le temps de Dieu, c'est le temps qui lui appartient, et ce n'est pas forcément le temps de la façon dont il se passe et dont on aimerait qu'il se passe. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'obéir au moment où Dieu nous adresse sa parole. À un moment, Dieu nous adresse sa parole, on reçoit cette conviction, et c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer. Il y a 16 ans, oui, les travaux se sont interrompus, mais cette fois, c'est l'Esprit de Dieu qui donnera la force à celui qui doit construire le temple pour mener les travaux et les conduire jusqu'au bout. Et quelles que soient les circonstances environnantes, il reçoit la certitude que ce temple sera bien construit. Et il y a aussi un petit détail qui est assez intéressant dans ce texte au verset 7, puis ensuite au verset 9 et 10, c'est la mention de cette pierre qui doit être mise de côté par Zorobabel. Alors, comme je vous disais, ça fait partie des choses auxquelles on n'est pas forcément habitué. En fait, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour nous, cette pierre qui doit être mise de côté. Mais en fait, à l'époque, dans le Proche-Orient ancien, lorsqu'il y avait eu un temple à un endroit qui a été détruit par des guerres, par des tremblements de terre ou quoi que ce soit, et qu'on voulait reconstruire un temple au même endroit, alors ce qu'on faisait, en fait, au tout début des travaux, on prenait une pierre de l'ancien temple, on la mettait de côté devant l'ensemble de l'assemblée, et puis, donc on la laissait de côté pendant tout le temps des travaux, et lorsque le temple nouveau était pratiquement fini, eh bien on venait la mettre tout au-dessus du sommet du temple. Et le but était de montrer qu'il y avait une continuité entre le premier temple et le deuxième temple, d'une façon de dire, même si un temple a été détruit, le culte, lui, a toujours continué à être célébré. Et ça a une signification toute particulière pour Zorobabel. Ça veut dire que lorsque Dieu lui dit, tu vas prendre cette pierre, et cette pierre que tu mets de côté, ça va être toi-même qui va venir la mettre tout au-dessus du temple, c'est que Zorobabel reçoit cette conviction que les travaux qu'il va commencer à lancer, eh bien ça va être lui qui va avoir la certitude de pouvoir les finir, parce que c'est Dieu qui l'a décrété. Et de plus, cette pierre, elle est un peu spéciale, il nous a dit qu'elle a 7 yeux, alors c'est un peu spécial, hein. Mais un texte vient un peu nous éclairer là-dessus. Vous savez, dans l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 6, il nous est dit que c'est l'agneau de Dieu qui a 7 yeux qui parcourt toute la terre. En fait, sans le savoir, Zorobabel est en train de construire un temple qui n'est que l'ombre du temple qui est à venir. Et c'est en étant animé par un tel esprit, en étant animé par l'esprit du Christ, qu'il peut avoir cette certitude que l'œuvre qu'il est en train de mener, il va pouvoir la mener à son terme. La réalisation de la promesse de Dieu va effectivement devenir un jugement pour tous ceux qui étaient incrédules. Le texte nous dit « Qui donc méprisait les petits commencements ?» Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Beaucoup peuvent se tenir en marge de l'Église et peuvent nous juger, nous critiquer à cause de notre attitude de foi. Ça peut paraître un petit peu farfelu de se réunir un dimanche matin et de croire qu'un jour le Christ va revenir au milieu de nous. Mais c'est ceux qui sont fidèles, qui à un moment verront leur foi honorée et qui verront la réalisation des promesses. J'aimerais maintenant donc continuer un petit peu donc sur ce chapitre et venir maintenant sur cette question du chandelier, des oliviers, de l'huile. Et cette fois-ci, le prophète passe sur un ton qui est un petit peu différent. Donc dans un premier temps, il parlait d'une façon un peu pragmatique. Il y a effectivement un temple de pierre qui est concerné dans ce texte. Mais cette fois-ci, le prophète utilise un langage poétique pour nous inviter à lever les yeux un petit peu plus haut que la situation dans laquelle se trouve le peuple à cette époque-là. Et le but d'employer un langage prophétique, c'est de nous inviter, donc non seulement le peuple à cette époque-là, mais l'Église de tous les temps, donc les chrétiens de tous les temps, donc ceux qui nous ont précédés, nous aujourd'hui, mais aussi l'Église de demain, à se rendre compte que cette parole qui est adressée nous est adressée à nous. Ce chandelier, dont il est mentionné dans ce texte, c'est une image qui est l'image de l'Église. Et le fait que ce chandelier est toujours animé par l'huile qui vient couler de façon incessante et qui alimente ces flammes qui sont au-dessus, cela révèle la façon dont le Seigneur anime son Église de façon incessante. Et la façon dont Zacharie décrit cette prophétie, il fait vraiment un travail d'orfèvre dans sa façon de décrire les choses, parce qu'il ne laisse aucun détail au hasard. Tout d'abord, il nous est dit que ce chandelier est tout entièrement en or, ce qui veut dire que la façon dont Dieu voit son Église, c'est qu'elle a du prix à ses yeux. L'Église n'est pas n'importe quoi, l'Église n'est pas un truc qui est laissé de côté, l'Église est la pièce maîtresse de toute l'histoire de la révélation. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et il nous est dit aussi que ce chandelier est surmonté par 7 bougies qui ne cesse de brûler, et c'est cette bougie, c'est le témoignage de l'Église, c'est le témoignage de tous les croyants, de tous les siècles, qui ont toujours eu foi en la parole de Dieu, et parce qu'ils ont foi en la parole de Dieu, eh bien ce sont eux qui participent au cours de l'histoire, et c'est cette bougie qui nous parle de la façon complète où l'Église rayonne à travers le monde. C'est-à-dire que même si on ne s'en rend pas totalement compte, même si nos tout petits pas de foi semblent insignifiants, eh bien ça a réellement une importance dans le monde qui nous entoure. Et il y a un détail aussi qui est très intéressant, c'est qu'il nous est dit que ce chandelier à aucun moment n'est allumé par une intervention humaine. Et pour un lecteur de l'Ancien Testament, tout de suite on fait le lien, vous savez, lorsqu'on parle du chandelier, formé dans le contexte de l'Ancien Testament, le chandelier, c'est un lien clair avec le chandelier qui se trouvait dans le lieu saint, dans le temple. Et il nous a dit que le chandelier qui était dans le temple, tous les matins, il y avait un souverain, enfin pas un souverain sacrificateur, un sacrificateur qui venait avec de l'huile pour être sûr que la flamme ne s'éteigne jamais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est dans la nature même du chandelier qu'il est fait pour ne jamais s'arrêter. En fait, il n'y a aucune intervention humaine. En fait, ce que les hommes font ou ne font pas, ce n'est absolument pas important. Le chandelier a dans son ADN tout qui est mis en fonction pour pouvoir clairer de façon sans cesse, incessante. Il n'y a pas de changement. Et même pour l'huile, les détails sont super intéressants. Il nous est dit que c'est de l'huile dorée et que cette huile est tellement précieuse qu'il y a même un canal en or qui vient la conduire pour pouvoir alimenter ce chandelier. Cette huile, c'est l'esprit qui est la source de l'Église, qui est la pièce maîtresse de l'Église. Il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas d'esprit. L'esprit est indissociable du fonctionnement de l'Église. On ne peut pas séparer esprit et Église. C'est vraiment deux choses qui sont totalement liées. L'Église n'est pas une institution, même si l'institution est, je veux dire, partiellement nécessaire, mais l'Église, ce qui est important dans l'Église, c'est qu'elle soit réellement animée, habitée par l'Esprit. Et le moyen par lequel cette huile coule, eh bien, c'est par une branche d'olivier qui se trouve sur chaque arbre, de chaque côté de l'olivier. Et ces branches d'olivier sont pour l'une représentées par Josué, le souverain sacrificateur, et pour l'autre, Zorobabel, qui est le leader politique et qui est un descendant de David. Et en plus, la généalogie de Jésus nous apprend que c'est aussi un ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Ces deux personnages ne sont que deux branches d'olivier qui, ben, une fois qu'elles ont donné toute l'huile qu'elles avaient à donner, eh bien, à un moment, s'en vont et laissent la place à d'autres branches d'olivier. Mais donc, ça signifie donc que les ministères sont effectivement importants pour l'Église. Nous avons besoin des ministères dans l'Église. Nous avons besoin, donc, à ce moment-là, de Josué, de Zorobabel. Nous avons besoin de pasteurs dans l'Église. Nous avons besoin d'un conseil d'Église. Nous avons besoin des musiciens. Mais ce qui est important, ce n'est pas la branche en elle-même. À un moment, la branche, eh bien, elle a donné son fruit, elle peut s'en aller, elle peut, voilà. Et puis, ça fait partie de ce fonctionnement des oliviers, mais on n'a pas à stresser vis-à-vis de ça. Et donc, je fais le lien. Il y a 20 ans, c'est notre frère Lucien Clerc qui a monté l'église, et puis à un moment, il a passé la main à Gérard, et puis à un moment, ben voilà, Gérard, dans quelques années, eh bien, s'en ira, mais ce n'est pas pour ça que l'église s'arrête. Elle est toujours de façon incessante, animée par son esprit. Cela montre aussi l'importance des ministères. Nous avons besoin d'avoir des personnes qui sont formées, qui sont appelées aussi par l'esprit à proclamer la parole. Et puis, ces oliviers représentent donc pour l'un, dans ce texte, donc, comme je le disais, le sacerdoce lévitique, pour l'autre, la monarchie royale. Et puis, celui qui est venu englober tout ça, celui qui est venu englober tout ce ministère prophétique, sacerdotal, monarchique, eh bien, c'est le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le tout début de ce texte, Zacharie est en train de nous parler de ce qui se passe pour la Nouvelle Alliance. En fait, Zacharie nous projette par anticipation dans la venue du Christ. Et il est en train de nous montrer de façon très claire que ce qui est visé, ce n'est pas le temple de pierre. Enfin, partiellement, le temple de pierre est visé parce qu'il a une importance dans cette partie de l'histoire. Mais pour Zacharie, ce qu'il est clairement en train de montrer, c'est que le temple de pierre, voilà, effectivement, il est visé, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le véritable temple, le temple qui est fait d'êtres humains, l'Église, qui appartient à Dieu, l'Église de tous les siècles. Et c'est donc ce peuple fidèle qui est visé par la prophétie de Zacharie, le peuple qui est toujours animé par l'Esprit de son Dieu. Ainsi, par cette prophétie, le peuple reçoit la confirmation que non seulement le temple sera reconstruit, mais en même temps, nous recevons cette conviction, c'est que Dieu est toujours aux commandes, et en tout temps, il sera aux commandes de son Église. Alors, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Parce que là, c'est, je vais dire un petit peu théorique, c'est facile de dire Dieu nous conduit, mais de façon pratique, comment cela peut se traduire? Eh bien, je crois que tout d'abord, ça s'adresse à lorsque nous passons par un temps d'épreuve, par un temps de sécheresse, vous savez, les temps où, eh bien, comme c'est ce peuple d'Israël qui, pendant 16 ans, se retrouve, ben, les travaux, où sont-ils? Dieu a fait des projets, Dieu a fait des promesses, et alors pour moi, on sait quels sont. On se pose la question, eh bien, Dieu reste bien aux commandes. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas encore l'aboutissement de la promesse de Dieu que Dieu n'est pas souverain et qu'il n'est pas au-dessus. La deuxième conséquence pratique, je crois, mais c'est celle que j'ai évoquée, c'est celle du ministère. L'Église n'appartient pas au ministère qui est en place. L'Église, elle appartient à l'Esprit de Dieu. Et il faut croire donc que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit son Église en tout temps. Et que peu importe les situations qu'il peut y avoir, eh bien, on n'a rien à craindre. Ça veut dire qu'on n'a aucun stress à avoir. Si on prie, si on fait confiance au Seigneur, si on recherche la volonté de Dieu, si on se soumet à son esprit, eh bien on croit simplement que le Seigneur va nous diriger et va veiller sur son Église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec notre intelligence, mais ça veut dire que le Seigneur nous éclaire, nous donne toujours l'intelligence pour savoir faire les choix que l'on doit faire pour pouvoir discerner sa volonté. De façon pratique, ça veut dire aussi que ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens. Vous savez, il y en a, ils prient. Et ils disent qu'ils prient par la foi, mais ils essayent de tout faire par eux-mêmes. Vous savez, des fois on est comme ça, on est un peu crispé, on se dit oh, Seigneur, je ne sais pas, je veux voir telle réalisation, et alors on essaye de s'agiter dans tous les sens pour réaliser les promesses de Dieu. Voilà, c'est bien, je pense qu'il faut, aussi mettre des choses en place dans sa vie, mais ça veut dire aussi, eh bien, à un moment, il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire, eh bien, faisons confiance. On a prié, faisons confiance, la volonté de Dieu s'accomplit, et on n'a pas à s'affoler, on n'a pas à s'agiter dans tous les sens. Ayons confiance dans le Seigneur. Ça se manifeste aussi, je crois, pour la conversion. Vous savez, souvent, moi j'entends souvent dans nos églises, les parents qui se font du souci, ou même, par exemple, quand on témoigne à des amis ou à des personnes que l'on a à cœur, et qu'on a envie des fois, vous savez, de toutes nos forces, de voir quelqu'un se convertir. C'est normal, je veux dire, bah, tant mieux, c'est bon signe, hein. Moi je vous encourage à avoir à cœur des conversions. Mais à un moment, bon, il faut se dire, on a parlé aux personnes, ça ne sert à rien de revenir et de rabâcher sans cesse. À un moment, on fait fuir les gens. Et à un moment, voilà, on a semé, faisons confiance, prions pour les personnes, et faisons confiance qu'à un moment, c'est Dieu qui appelle. Et au moment où Dieu appellera ces personnes, et bien, de toute façon, lorsque l'appel de Dieu est lancé, on ne peut pas résister. Alors si, comme Zorobabel, nous avons pu espérer à plusieurs reprises voir le temple de Dieu se construire, eh bien faisons confiance à la parole qu'il reçoit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par nos propres moyens que nous pouvons construire l'Église. Ayons totalement confiance à l'Esprit de Dieu qui conduit l'Église. Ce texte que nous avons lu ce matin nous montre que le Seigneur est présent en tout temps, même si on ne le voit pas, il est toujours aux commandes. L'œuvre de Christ était là avant nous. Elle est là maintenant, elle continuera après nous. C'est pourquoi on peut marcher avec notre Seigneur de la façon la plus confiante qu'il soit. Il nous a dirigés, il nous dirigera jusqu'à son retour. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour cette parole que tu donnes. Merci parce que c'est toujours étonnant de voir comment cette parole nous parle toujours et entièrement de toi, entièrement de ton œuvre. Et nous appelle à te faire confiance. Seigneur, notre prière, eh bien, devant ces paroles, nous confessons bien souvent notre cœur peut être agité, peut être dans la tourmente, mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est recevoir cette parole avec foi pour avoir confiance, que tu nous conduis, que tu nous diriges, que tu nous donnes toujours le discernement dont nous avons besoin pour pouvoir vivre notre vie de foi avec confiance. On te remercie pour l'esprit que tu nous as donné. Aide-nous, Seigneur, vraiment de toujours rester attentif à ce que tu veux nous dire à travers lui. Merci Seigneur de tout cœur pour ta parole. Amen.